Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures éclectiques et rieuses pour vous, tactiques et piégeuses pour eux. Chaque après-midi, vous le savez, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui se sera montré le plus digne de votre insatiable soif de savoir. Car je vous connais, chers auditeurs, vous avez autant envie d'apprendre qu'Eva de trouver un mec.
Ah ouais.
Bonjour Eva Rock.
Voilà.
Rien de neuf à l'horizon?
Non, rien de neuf à l'horizon. Enfin, tout va bien.
Tout
bonjour
va bien
Mathieu,
quand même.
Bonjour à tous. Oui, bien sûr. Oui.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur cet après-midi. C'est toujours étrange d'accueillir quelqu'un dont on est fan, avec qui quelque part on a grandi.
Jeanne Masse. Ah mais... non, Jackie Quartz.
Non, Eva, ne projetez pas vos idoles sur les miens. Bonjour Daniel Picouli.
Bonjour.
Écrivain, scénariste, homme de télé. On vous retrouve désormais sur France 3 dans l'émission Les Témoins d'Outre-mer. Vous avez une chronique chaque lundi. Les Témoins d'Outre-mer, émission transfuge de France O, désormais donc sur France 3, car France Télé a décidé de fermer la boutique France O. J'imagine que vous n'avez pas sauté au plafond. Vous comprenez, vous regrettez, vous pardonnez.
Oui, rien à pardonner. Notre président a dit le service public, c'est un scandale. Et alors, première chose qu'ils ont fait, ils ont supprimé France O et France 4. Moi, je me suis dit, peut-être c'est nous le scandale. On va aller voir, on va regarder ça. Là, je plaisante, mais j'étais vraiment déçu, même symboliquement. Moi, j'y travaille depuis près de 20 ans, même si j'ai fait des incursions sur d'autres chaînes. Et il y a quelque chose à défendre de tout ça, il y a quelque chose à montrer. Je fais la littérature, par exemple. Il y a une littérature absolument extraordinaire qui nous vient des Outre-mer ou des Grands Suds. Où est-ce qu'elle va être traitée? C'est un petit peu
aussi France
la
3.
Question. Sur France 3. Pour l'instant, en gros, on ferme France O, mais on va montrer la diversité sur France Télévisions. D'accord, c'est ça le message, c'est ça la promesse, plus exactement. Puis après, il faut assurer, il y a 25 propositions, on va peut-être surveiller si la diversité est bien en place
sur
France
Télévisions. Il va surveiller tout ça, Daniel Picouli, on va en parler, ainsi que de votre émission Page 19. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, il est clairement en sursis dans notre émission, et même dans Europe 1, et même au sein du groupe Lagardère, en cause cette réflexion perfide lâchée autour d'une discussion avec notre invité Philippe Geluck et qui résonne encore dans le studio Merlin comme un coup de fusil qu'on se serait tiré dans le pied.
Est-ce que vous consultez votre smartphone dès le réveil?
Moi, c'est sur le portable que j'écoute Europe 1.
Ah, c'est vous.
30 minutes plus tard, dans le bureau d'Arnaud Lagardère.
J'ai dû désintégrer la gueule, moi. Pendant que je me crève le cul, c'était mort.
Bonjour Jean-Philippe Ballas. Vous allez vous tirer des balles dans le pied comme ça souvent ou...
Le vrai sens de l'humour, ça commence par soi-même. Bonjour Mathieu,
c'est
bonjour
vrai. Vous êtes parmi nous aujourd'hui avec un bracelet non pas électronique, mais simplement électrique, à la moindre réflexion désobligeante envers votre employeur. Un petit coup de jus pour vous rappeler qui vous verse la somme qui tombe sur votre compte en banque chaque fin de mois. Aujourd'hui, vous vous rattrapez, vous nous parlez de quoi?
Un demi-siècle de tubes en 10 minutes seulement. C'est un graphique hallucinant qui circule en ce moment sur Internet. Il y a tout. Il y a des Beatles, il y a Led Zeppelin, il y a même Drake. Je vous raconte tout ça.
Et je l'ai reçu, vous me l'avez envoyé par lien. Je l'ai trouvé anxiogène, moi, ce vidéogramme.
Ben
oui, de voir toute l'histoire de la musique, avoir toutes les ventes de disques en direct comme ça qui défilent, ça fait un petit peu peur. Je vous souhaite bonne chance, même si la chance n'aura pas vraiment droit de citer aujourd'hui, puisqu'en effet, pour la première fois de l'histoire de l'équipe sauvage, un journaliste a déjà gagné mon point avant même de démarrer son papier. Pour la première fois, on va parler de Keith Jarrett en plein milieu de la journée sur Europe 1, dans mes bras, Fred Goati.
C'est beau.
Il en perd ses moyens.
Du coup, vous n'avez pas de teaser, Fred Goati.
Justement, Keith Jarrett, on retournait en Allemagne, à Cologne, en janvier 1975.
Cool,
c'était avant.
Exactement, Daniel.
Avant la chute du mur. Et Keith Jarrett faisait déjà tomber les barrières.
Ah oui. Sinon, on pourrait aussi laisser le code comme ça. La durée de l'émission. Ouais. Ça pourrait être bien. Si on pourrait le mettre en tapis.
Je trouve personnellement que parler sur du Keith Jarrett, c'est péché.
Et là, je vous donne un point aussi.
Ah,
vous avez raison.
C'est vrai.
Voilà pour le programme, les amis. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc l'écrivain et animateur télé Daniel Picouli qui nous accompagne cet après-midi. Daniel, vous participez à l'émission Les Témoins d'Outre-mer, diffusée du lundi au vendredi à 8h40 sur France 3, présentée par Nella Bipa. Tous les lundis, vous proposez une chronique intitulée « Destin », dans laquelle vous mettez à l'honneur des femmes et des hommes des Outre-mer à la vie exceptionnelle. Vous parlez par exemple du parcours incroyable et tragique de la mulâtresse Solitude. La mulâtresse Solitude, rien que l'énoncé est fascinant, on dirait une chanson de Michel Berger. Qui est-elle?
C'est beaucoup plus dramatique. En 1802, une femme est enceinte. elle va être exécutée après qu'elle ait accouché. C'est la mulâtresse solitude, c'est une femme qui s'est révoltée contre Napoléon qui a voulu rétablir l'esclavage, parce qu'on oublie quand même qu'il y a eu deux abolitions de l'esclavage, et Napoléon a envoyé des troupes en Guadeloupe pour que ça cesse tout ça. Et cette femme s'est rebellée. Elle a été faite prisonnière, elle était enceinte, et on a un peu attendu, tout simplement, qu'elle ait mis son enfant au monde pour l'exécuter. Et c'est une histoire qui fait quatre lignes dans l'histoire et qui a été reprise par Schwarzbart, qui en a fait un roman, et c'est devenu un mythe. C'est-à-dire que cette femme maintenant incarne la résistance des femmes à l'oppression et en l'occurrence à l'esclavage. Voilà. C'est à la fois une belle histoire et ça montre comment un roman peut un jour fabriquer un mythe.
Et il y a une histoire dans l'histoire, parce qu'on ne sait pas ce qu'est devenu cet enfant, en fait.
Bah oui, c'est presque, j'allais dire, le développement qu'on attend de ce roman, qu'est devenu cet enfant.
Alors, dans Les Témoins d'Outre-mer, il y a aussi des bonnes nouvelles ou
Non, mais c'est une bonne nouvelle, l'émergence de... Quand vous rencontrez quelqu'un... Moi, ce que je constate en faisant cette émission-là, que beaucoup des destins dont je parle sont inconnus de la plupart des gens.
Celui-là,
ou mal connus, en tout cas. Donc, c'est déjà extraordinaire que de pouvoir faire émerger un destin, et que les gens, s'ils regardent Les Témoins d'Outre-mer le matin aussi, c'est aussi pour découvrir bien sûr l'Outre-mer, le côté c'est beau, l'Outre-mer, on peut avoir des cartes postales à foison, mais aussi de la connaissance, il y a aussi de l'histoire, il y a du patrimoine qu'on partage tous, donc c'est ça un peu qu'on fait le matin à 8h40, mais de façon beaucoup plus détendue que ça peut y paraître avec un sujet comme celui-là qui est dramatique, bien sûr.
Vous le retrouvez chaque lundi désormais dans Les Témoins d'Outre-mer. Daniel Picouli est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, comment Dieu a-t-il pu si mal répartir le talent, en donner si peu à Keith Jarrett ? Ce pianiste affublé d'une main gauche un peu mollassonne, et en donner autant à Eva Rock.
Mais vous êtes bête,
je ne sais plus rien jouer.
A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec notre invité Daniel Picouli. Et alors que nous nous apprêtons à entrer dans le vif de la compétition, je tiens à signaler que la chronique qui suit va racheter tous nos péchés en matière de mauvais goût musical. Oui, je vous ai infligé le téléphone pleure en espagnol.
Escucha, et tu le remets en plus.
Camaro par Julien Doré.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby.
Et même Michel Sardou en zouk. Mais aujourd'hui, à travers Fred Goetti, je me rachète, j'expie. Car Fred, vous nous parlez d'un des plus grands pianistes du 20e et du 21e siècle, peut-être de tous les temps.
Mais quel homme de goût faites-vous, mon cher Mathieu. Mais avant de nous pencher sur The Cole Concert, puisqu'il est question de The Cole Concert, petit flashback. Keith Jarrett a fait sa première apparition télé à 5 ans, oui, et donné son premier récital classique à 8 ans, en jouant du Bach, du Mozart, du Beethoven et déjà ses premières compositions personnelles. Et quelques années plus tard, après un bref séjour chez les Jazz Messengers du grand batteur Art Blakey, il devient le pianiste de Charles Lloyd, puis d'un certain Miles Davis. Et en 68, il sort coup sur coup ses deux premiers disques, dont celui-ci.
Ah, c'est étonnant, ça.
Et alors, c'est pas possible, Frédéric, vous êtes trompé, c'est pas Keith Jarrett, on dirait un imitateur de Bob Dylan.
C'est vrai, mais c'est pourtant bien que j'arrête, je vous assure. Alors ok, il a bien fait de se concentrer sur sa carrière pianistique.
Oui, parce qu'il joue de tous les instruments, c'est ça le truc.
Eh oui, il est très fort. Et d'ailleurs, le premier disque qu'il enregistre pour le label OCM, c'est un disque en piano solo un peu moins connu qui s'appelle Fessignou. Et le 24 janvier 1975, à l'Opéra de Cologne, c'est le drame. Quand Keith Jarrett et son producteur Manfred Eicher arrivent sur place après 600 km de route en 4L, il découvre non pas le piano Bösendorfer impérial promis, mais un modèle d'étude en piteux état. Catastrophe. Mais qu'importe, Keith Jarrett engloutit le plat de pâte qu'on lui sert à peine 15 minutes avant le début du concert. Il bondit sur scène, il pose ses mains sur le clavier, et là, encore un drame ? Non, la magie. Chut ! Et dans le bus qui sert de studio d'enregistrement, Manfred Eicher sent tout de suite qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, dans la 4L, il réécoute la bande et Keith Jarrett en convient. Ce concert n'est pas un concert comme les autres. C'est une polyphonie envoûtante, un mélange d'improvisation, de jazz, de pop, de gospel. Et tout en jouant, Keith Jarrett gémit
fredonne, crie même parfois, et le public est en transe, comme lui. Quelques mois plus tard, The Cole Concert est dans les bacs et bat tous les records de vente. Jamais un disque en piano solo ne s'était autant vendu. 3 millions d'exemplaires, dont le vôtre, Mathieu.
Oui, moi je l'ai en plusieurs exemplaires. Ça fait encore
en
plus,
CD,
encore,
en cassette,
encore
en vinyle.
Plus de sous pour kiff.
Évidemment. Alors rendez-vous compte, si la musique ne l'avait pas emporté ce soir-là sur les circonstances défavorables, Keith Jarrett ne serait peut-être pas une star du jazz et le label ECM n'aurait peut-être pas fêté ses 50 ans. Toute la magie du jazz tient là, dans cette glorieuse incertitude du sort. Mais rassurez-vous, ECM va très bien et je vous ai apporté le nouvel album en piano solo de Keith Jarrett, Munich 2016. Il se termine par la merveilleuse chanson qu'interprète Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, Somewhere Over the Rainbow, quelque part là-haut, au-dessus de l'arc-en-ciel, dans les hautes sphères du génie pianistique.
Chers auditeurs, je tiens à signaler que c'est compliqué d'écouter Keith Jarrett sur un temps, un espace temporel ramassé comme notre émission. Mais vraiment, je vous invite à découvrir, évidemment, commencer par le concert de Cologne. C'est le plus accessible de tous les concerts solo de Keith Jarrett et certainement des plus beaux aussi, c'est vrai. La Scala aussi, le concert de Brême, particulièrement celui de Lausanne également. Je vous invite à le découvrir. Tokyo. Alors, si je peux me permettre, aujourd'hui, c'est moi qui vais poser la question vache. Attention, voici la question vache, non pas de l'autre chroniqueur, mais de Bibi. Fred Goetti, vous semblez bien connaître Keith Jarrett. Vous venez nous faire écouter Somewhere Over the Rainbow, qui est donc le morceau de fin choisi par Keith Jarrett sur son dernier album Munich. Savez-vous dans quel autre album on retrouve déjà Somewhere Over the Rainbow, qui était déjà le rappel d'un des concerts solo de Keith Jarrett?
C'est en 1992, je crois. Je me demande si c'est pas aussi en Allemagne ou alors à Vienne.
Non, c'est à la Scala de Milan.
C'est à Milan.
C'est l'album La Scala.
Mais qu'est-ce que c'était... je m'en vais je...
Mais vous pouvez partir rester... maintenant parce que c'était une belle chronique. J'étais...
Est-ce que je peux poser
Daniel
une question,
Piccoli, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez.
Qu'est devenu la 4L? Parce qu'il me paraît mythique.
C'est
une
vrai.
Voiture où il s'est passé tant de choses. Ah, dans
je pense que si un jour on ouvre Daniel, un musée qui j'arrête, il faudra l'exposer. Très
absolument.
Bonne idée.
Oui, voilà.
Merci Fred Goetti. Il est sur France 2, il est sur France 3 aussi. Il se bat pour le respect de la diversité. Daniel Piccoli passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, on continue de parler musique avec un journaliste qui se la joue classe et pointue, qui aimerait bien passer pour un puriste du rock, un baromètre du bon goût. Hélas, depuis qu'il nous a révélé dans un moment d'égarement ce secret d'adolescence honteux...
J'avais le 45 tours de Carlos.
Il restera à jamais pour les auditeurs d'Europe 1, Monsieur Papayou. C'est ce qui s'appelle partir avec un handicap, mais Jean-Philippe Ballas n'arrive pas les mains vides. Il a les vrais chiffres des ventes de disques sur un demi-siècle. Si vous avez 2-3 heures devant vous, il vous raconte. Juste après, Alain Souchon, ici et là, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire et en compagnie d'un invité qui partage notre curiosité. Aujourd'hui, c'est Daniel Piccoli qui nous accompagne. Alors attention Daniel, ici on aime la curiosité, certes, mais de la curiosité à la perversité, il n'y a parfois qu'un pas. Et hier, notre invité Marius Colucci était vraiment très très curieux.
Si tu aimes la pop allemande, essaye les Gengis Khan.
Comment tu l'écris ?
Mal. Il y a un morceau qui s'appelle Moscou, où ils sont habillés en bioman, qui est formidable.
Je crois que parfois, il faut savoir aussi réfréner sa curiosité. Daniel Piccoli.
Bioman, parce qu'ils ont été en tête des ventes. À l'époque, c'était Club Dorothée.
Hommage à Bernard Minet. Daniel Piccoli, on vous retrouve tous les lundis dans Les Témoins d'Outre-mer, diffusés du lundi au vendredi à 8h40 sur France 3. Cette émission est diffusée également sur France O, tout comme une autre émission que vous présentez depuis 2014, le dimanche à 11h45, page 19. Vous nous expliquez, pour ceux qui n'ont jamais vu, le concept assez génial de la page 19.
C'est tout simplement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là, quand j'étais dans les studios, il y avait un roman qui
traînait,
j'ai lu la page 19. Je commence par la lecture de la page 19 de mon invité. Et curieusement, depuis, ça fait 3-4 ans qu'on fait cette émission-là, ça colle toujours. Alors, bien sûr, il est évident que maintenant, tous les auteurs du monde
font attention
à leur page 19 avec les éditeurs. Ils disent, mais non, tu peux pas laisser ça voilà, dans ta page 19. Donc voilà,
page 19, et pas parce que 19, c'est le canal de France O.
Oui,
et que personne
ne
savait.
C'est
oui.
Ça. C'est-à-dire
que, bon, on vient de parler de la disparition de France O. Il y a même des raisons. C'est que moi, depuis que je suis à France O, les gens me disaient, pourquoi tu as arrêté la télé? Parce que les gens ne connaissent pas.
Les gens parlent d'aller aussi loin que la chaîne 19. C'est
la preuve, cette émission, elle tombe qu'on fait, on la faisait sur France O, elle fait 5 fois plus. de téléspectateurs sur France 3. C'est une chaîne qui n'était pas regardée, alors que franchement, tous ceux qui la regardent et qui en parlent trouvent des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est ça le problème, quoi. Voilà, mais enfin bon, là, on n'est pas en train de... C'est pas un deuil qu'on est en train de faire. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après sur les autres chaînes.
Mais alors, j'imagine qu'on vous parle quand même souvent de Café Picouli, parce que moi, on me parle toujours de cet tabou, alors que ça fait déjà 3 ans que j'ai arrêté. Si c'était ce soir, donc j'imagine que Café Picouli, les gens pensent que ça existe toujours.
Voilà,
c'est à quelle heure maintenant Café Picouli?
Bah là, c'est là, c'est pareil. Là, par exemple, le côté condoléances. Bah là, c'était bien. Pourquoi vous avez arrêté? Voilà. Mais bien sûr, parce que c'était un grand moment que j'ai adoré et que j'ai adoré arrêter. C'est ça qui paraît dingue, c'est que c'était une émission qui me prenait tellement, voir les films, lire les. Moi, je faisais tout, j'allais voir les pièces de théâtre et tout, et je ne pouvais plus écrire. Et je m'étais dit, quand ça s'est arrêté, je me dis, Daniel, tu n'as plus d'excuses maintenant. Il y a fait 20 ans que tu dis que tu veux faire du théâtre, t'en fais. J'ai écrit une pièce. Et je l'ai joué, et je dois ça à Café Picouli, à l'arrêt de Café Picouli. Donc pour moi, ce n'est pas un brassard de deuil, hein. C'est aussi une belle expérience qui s'est terminée par une très belle expérience.
Eva Rock.
Comment vous étiez retrouvée à la télé? Qui c'est qui vous avait repéré? C'était Catherine Barma. Alors
à la télé, pour Café Picouli, c'est Ardisson et Barma. Moi, je croyais qu'ils avaient vu mes émissions sur France.
Oui.
Pas du tout.
Ah non,
pas du tout. Comme les autres n'avaient jamais vu. Ils disent non, t'étais un bon client. Voilà, quand je passais sur les plateaux, ça se passait bien. Ils m'ont dit, toi, on a l'impression que tu peux animer une émission. Et le fait est, surtout qu'à l'époque, on était en concurrence avec De Morand qui avait une autre émission. C'était le moment où, de façon, je trouve, très intelligente, la télé mettait en concurrence des programmes. Et puis, celui qui, entre guillemets, l'emportait en termes d'audience ou de qualité, perdurait. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais sinon, avant, je suis arrivé à Franço, parce que Franço avait, j'allais dire, un prix littéraire, c'est-à-dire le prix de Franço. J'étais le président. Je leur ai dit, mais c'est, vous me faites un prix littéraire, mais il n'y a pas d'émission littéraire. Je dis, ah oui, c'est vrai. On a créé, voilà. Ça s'appelait Pita Parole, après ça s'appelait Tropisme, on a fait ça pendant des années. Donc c'est des choses un petit peu improbables qui vous amènent à la télévision. Moi, je n'ai jamais pu imaginer. Et c'est ça aussi la question de la diversité. Moi, quand j'étais un gamin dans ma cité, que je regardais la télé, je ne voyais pas de type qui avait ma tête. Donc je ne voyais pas pourquoi un jour je serais, moi, un présentateur d'une émission littéraire. C'est ça aussi qui est important dans la diversité, c'est l'exemplarité.
Oui, montrer que c'est possible et que c'est possible. Tout le monde
donc,
à la télé.
Ça donne des envies, quoi.
L'île défend la littérature et la diversité sur France. Et France 3, l'écrivain Daniel Picouli, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, on connaît son goût pour le répertoire de Carlos, sa passion, peut-être d'ailleurs consommée, disent certains, pour Mireille Mathieu. Mais Jean-Philippe Ballas s'en fout, en pionnier de l'auto-hypnose ericksonienne. Il s'exerce chaque matin devant le miroir avant de partir à Europe 1 en se répétant comme un mantra.
Je suis cool, je suis branché, je parle aux jeunes. Hein.
Bien sûr Jean-Philippe, et moi je suis pêcheur de perles au Nicaragua. Ce qui est sûr en revanche, c'est que vous allez nous livrer les chiffres de vente des disques depuis 1970. Une incroyable animation vidéo permet de les visualiser. Ah ouais. Ça fait le buzz sur Internet, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Plus qu'une émission, un combat. Chaque après-midi, aux heures de leur journée de travail qu'ils consacraient jadis à la sieste, les journalistes d'Europe 1 sont désormais tirés de leur torpeur pour participer à un championnat d'un genre nouveau, un championnat journalistique. Le meilleur sera sacré chroniqueur du jour, sous l'œil de notre invité arbitre Daniel Picouli dans la voix contre à triple tout à l'heure. Alors vous allez voir Daniel, oui, on apprend des trucs. Mais
est-ce
humainement,
que je peux être soudoyé?
Ah, vous pouvez être tout à fait soudoyé. D'ailleurs, vous allez voir, c'est justement mon propos. Vous allez voir que... On apprend des trucs chez nous, mais humainement, ça peut être assez moche puisque nos journalistes en compétition sont prêts à tout pour l'emporter. Les coups bas sont monnaie courante, notamment via le pernicieux système de la question vache qui permet à chaque journaliste de poser une question piège à son rival à l'issue de la chronique. Heureusement, certains sont tellement maladroits que leur vilainie se retourne contre eux, à l'instar de notre expert éco Axel de Tarlé hier.
Tetris, je jouais dessus avec ma Game Boy. Oh merde, c'était ma question.
Et voilà, il faut être doué après pour poser des questions vaches. La vacherie, c'est un métier. Mon cher Daniel Picouli, en l'absence d'Axel, qui après ce faux pas a décidé de prendre un peu de recul, comme on dit dans le métier, je vous propose d'écouter aujourd'hui Jean-Philippe Ballas, qui nous parle économie et musique cet après-midi.
Oui, c'est un truc assez hypnotique qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un graphique évolutif, vous avez des colonnes qui bougent dans tous les sens, et qui vous résume en 10 minutes, un demi-siècle de musique, le classement des artistes qui ont vendu le plus d'albums. On commence donc en 1969, et à l'époque, question capillaire, bah vous avez le choix entre la coupe au bol. Évidemment, ils sont là, les Beatles.
C'est 69, hein.
Vous avez aussi la banane. You know Elvis, le grand Elvis. Ou alors, question vente d'album, vous avez aussi les cheveux longs, carrément longs, tendance Led Zepp. Voilà, eux, ils sont en tête. Et puis les années passent, Il y a des petits nouveaux qui font leur apparition tout en haut du classement. Un petit jeune à lunettes.
And you can tell everybody. Elton John
lui-même.
Quelle culture, Eva.
Qui partage donc le goût du déguisement avec ce type à fine moustache.
Ça, c'est beau, ça. Frédéric
Mercury. Mais Queen n'arrive pas en tête du classement.
Non, mais alors, ils sont quand même très hauts. Vous apercevez que Queen et Elton John sont très hauts. Et on comprend mieux pourquoi on leur a consacré deux films il y a quelques temps, deux biopics. Et oui, parce qu'on s'aperçoit qu'ils vendaient beaucoup plus que les Stones, par exemple.
Et ça, c'est étonnant, Jean-Philippe. Voilà, les Stones, ils n'arrivent jamais dans les trois premières places.
Qui ne sont pas des gros vendeurs d'albums, qui apparaissent parfois vers le bas du classement. Et puis alors, à l'époque, vous avez un slow, le slow qui vous fait penser que si au solo de guitare, vous n'avez pas emballé, c'est que c'est mort de chez mort. C'est ce slow.
Oh là là, la petite larme à l'heure de Jean-Philippe, j'imagine ces booms que vous avez vécu, Jean-Philippe.
Hotel California qui va rester très longtemps à l'Eagles avec les ventes d'albums.
C'est secouant quand même. Hein.
Secouant, mais justement, c'est ça qui est bon
mais
d'ailleurs.
Oui, je sais bien, bien.
Doucement les amis, doucement, on arrive aux années 80 avec un premier constat quand même. C'est quand même, on est entre mâle et entre mâle blanc dans ce classement.
Bah, sauf Michael Jackson.
Et voilà, enfin, le premier noir qui apparaît dans le classement, c'est lui. Il sera rejoint quelques années plus tard.
Et ce qui est terrible, c'est que ça aujourd'hui, les jeunes, ils pensent que c'est la musique du loto.
Oui.
Et ça, c'est quand même triste.
Ça fout les boules, quoi. Hein,
ça fout les boules. Exactement, Daniel Picouli.
Bon, inutile de vous préciser que Michael va s'installer sur le toit du monde pendant quelques années comme ça, parce qu'il y aura l'album Thriller, rejoint en 85 par une femme, enfin une femme, qui va passer dans tout le monde.
Madonna, c'est la première femme qui a vendu plus de disques que les hommes.
Absolument.
Ah oui.
Alors, elle va être vite rejointe par Mariah Carey, Whitney Houston. Et puis alors, en 97, il y a un film. Alors, je ne me souviens plus du titre, vous allez m'aider.
Ah si, moi
c'est
je m'en souviens.
C'est un paquebot qui rentre dans un iceberg. Ça s'appelle comment?
Non, je vois pas.
Ne m'appelez plus jamais France.
Michel Sardou. Titanic, évidemment. Vous connaissez l'histoire de cette chanson?
Elle ne voulait pas la chanter.
Céline Dion ne voulait pas la chanter.
C'est vrai, elle n'y croyait pas.
C'est René qui lui a demandé de le faire.
C'est René qui lui a dit vas-y.
Elle l'a fait quasiment en une prise ou deux, je crois.
Quelle intuition.
Ils ont gardé la première prise, ouais.
Voilà, donc Céline Dion.
C'était le petit plus des varoches.
Mais oui.
Céline Dion qui va tutoyer à son tour les sommets de vente d'albums. Mais un bateau qui coule, les amis, c'est un peu tout le rock'n'roll qui sombre avec le début des années 2000. Alors là,
moi, je me suis arrêté là.
C'est l'avènement de ce qu'on appelle la culture urbaine aux Victoires de la musique. Mmh. C'est Eminem qui va rester longtemps aussi tout en haut. Puis on aura ensuite Lady Gaga, on aura Kanye West, Rihanna. Vous la reconnaissez, Rihanna?
Oh bah, je la reconnais, mais c'est plus ma génération.
Le classement va se terminer en 2019 avec Drake en tête.
Et qui en deuxième place? Jean-Philippe, je ne connais pas le groupe qui est deuxième plus grand vendeur.
Je crois que c'est BTC, je crois que c'est de la K-pop, il me
semble. C'est de la K-pop coréenne. Ouais. Alors là, quand même, je suis largué.
Il y a une anecdote qui résume tout. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années. Là, je mets la voix de mon Paul derrière, Paul McCartney.
Votre Paul, votre Polo, comme vous l'appelez en intimité.
Ça, il y a les Grammys, les Victoires de la musique à Los Angeles. Paul est invité cette année-là. Et puis, comme toujours, il y a des fêtes organisées en ville. Après, Paul McCartney va se pointer à l'entrée d'une boîte de nuit avec quelques amis. Le videur va ouvrir la porte une fois, deux fois, trois fois. Il va le toiser, il va dire non, vous rentrez pas. Voilà, Paul McCartney, ça a été filmé, hein, la vidéo circule sur YouTube. Et là, Paul McCartney, il ne va pas faire de scandale, il se retourne vers ses amis, il leur dit bon, bah, je crois qu'il faut qu'on écrive de nouveaux tubes. Voilà, c'est un peu le jour où le hip-hop a tué le rock. Voilà. Je trouve que ça résume bien un petit peu ce demi-siècle de classement. Qui fait un petit peu peur, effectivement, Mathieu, parce qu'on voit le temps qui passe.
Ouais, moi, je l'ai dit, je me suis arrêté en 2002 pour Eminem. Vous, Daniel Piccoli, vous êtes arrêté un jour ou vous continuez aujourd'hui à vous émerveiller?
Non, mais je me demandais, où est Edith Piaf? J'étais en train de me demander, vous voyez, comme je suis.
Elle était bien avant, je pense. Ah,
Et puis, on est dans du classement mondial.
Je sais bien.
Non, mais c'est vrai que moi, j'avoue aussi que dans ce classement BTC et compagnie, je ne connaissais pas du tout. Il y a une étude scientifique très sérieuse qui dit qu'à partir de 33 ans, vos goûts musicaux sont figés.
Ça, c'est d'une tristesse absolue. Moi, je demande qu'à m'ouvrir au rap. Merci en tout cas à Jean-Philippe Ballas. Votre chronique vous permettra-t-elle de récolter les trois points de l'invité? Daniel Piccoli réfléchit, il vous rappelle.
Europe 1.
À suivre, quand vient le quiz d'Eva Rock contre l'invité, c'est un peu Real Madrid-Guingamp tous les jours. Hier, contre Marius Colucci, elle a pris 6-1 comme un tennisman français face à Federer. Eva Rock peut-elle rebondir face à Daniel Picouli?
Mais je... Moi.
Oui, vous avez raison d'y croire, Eva, car le quiz portera sur la culture antillaise.
Oh,
reste à espérer pour vous qu'il y soit plus question de Francky Vincent que d'Aimé Césaire. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir sans aller néanmoins jusqu'à vous péter un neurone. Les journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Le plus méritant d'entre eux aura l'insigne privilège de se coiffer de la couronne de chroniqueur du jour.
C'est
cette belle couronne
qui
n'est pas du tout en toc, comme vous le voyez. Sous l'œil d'un invité d'honneur qui, généralement, il y a un truc dans le studio, se lâche plus qu'à l'accoutumée. C'est vrai, souvent en promo, les artistes pèsent leurs mots. Chez nous, ils se sentent très vite comme chez mamie. Et ça donne lieu à de belles réparties, comme hier Marius Colucci, le fils de Coluche, à qui je demandais ce qu'il avait pensé de l'idée d'Antoine Decaune de faire un film dramatique sur la vie d'un comique, et qui m'a répondu de manière assez cash.
C'est comme si on faisait une comédie musicale sur le suicide de Bérégovoy, quoi.
Ça, c'est joli. Aujourd'hui, c'est Daniel Picouli qui nous accompagne. Vous retrouvez son émission Page 19 sur France O et désormais sur France 3 pour votre rubrique Destin dans les témoins d'outre-mer. Juste avant de vous tester via notre fameux quiz, j'aimerais savoir si c'est vrai cette histoire selon laquelle vous étiez un cancre à l'école. Vous racontez beaucoup ça et je me suis demandé si c'était pas par politesse vis-à-vis des jeunes qui nous écoutaient que vous aviez un peu exagéré cette cancritude.
Même pas. Non. J'étais un cancre au sens des années 60. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'étais ? J'étais le gosse qui faisait tout ce qu'il fallait pour passer juste et les portes se ferment derrière lui. J'ai des traces de portes dans le dos. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aurais déjà 14 psy. J'aurais vu tout le monde. Tout ce qui commence par psy, je l'aurais vu, parce qu'il fallait me soigner de quelque chose qui était la cancritude, c'est tout.
Alors, mon cher Daniel Picouli, l'heure est venue, non pas d'une dictée, mais d'un quiz, qui va vous opposer au cerveau de la bande, Eva Rock. Alors, on aurait pu être vache avec Eva et vous proposer un quiz sur Aimé Césaire, non. Aujourd'hui, rendons hommage à une partie très particulière de la culture antillaise, puisque nous vous proposons de jouer à Francky Vincent ou pas Francky Vincent.
Oh là là.
Principe simple, je vous donne des paroles. Vous nous dites si elles ont été chantées par le célèbre chanteur guadeloupéen ou pas. Vous êtes prêts ?
Oui.
Ah ouais.
Il y a des surprises, je vous l'annonce. Roulage de pelle à la citronnelle, feu d'artifice et vive la fesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Francky Vincent ou pas Francky Vincent ?
Mais qui doit répondre ? C'est...
Vous répondez tous les deux. Vous dites Francky Vincent ?
Oui.
On écoute la réponse.
Roulage
ensemble.
Roulage de pelle à la citronnelle. Feu d'artifice et vive la fesse. Merci beaucoup.
Une chose est sûre.
Non, c'est le boucu.
Une chose est sûre, les amis, c'est que Europe 1 est la seule radio qui vous permet d'écouter dans la même émission le concert de Cologne et Francky Vincent, merci beaucoup, sorti en 2012 sur l'album Matisse Métis.
Ah, c'est dingue ça, quand même.
Attention. C'est moi le coq de la basse-cour, je suis le prince de l'amour, c'est moi le chef de la basse-cour, je tire mon coup sans faire la cour. Francky Vincent ou pas Francky Vincent?
Moi, je dirais tout le temps non, voilà, je crois. Je dis non à Francky Vincent.
Non, vous ne pensez pas?
Non.
C'est vrai que c'est presque trop lettré. Et
oui.
Pourtant.
C'est moi le coq de la basse-cour. Je suis le prince de l'amour. C'est moi le chef de la basse-cour. Je tire mon coup sans faire la queue.
J'aime bien
jamais, en fait.
Décontraction. Pardon,
la musique ne change jamais.
Je vous en prie d'insulter Francky Vincent.
Il remonte dans mon estime, ce garçon osait.
C'était l'album Le Grand Coq, sorti en 1996. Alors attention, accrochez-vous. On me gonfle la bouche.
Oui, mais encore.
On me gonfle avec la bouche à la taille que l'on veut. Puis après, le bouche à bouche, on fait ce que l'on veut. Francky Vincent ou pas Francky Vincent?
Mais toujours, je dis toujours non.
Vous dites non, Eva?
Moi, je dis non.
Vous dites non?
Ouais. Mais...
Pourquoi?
Parce que c'est presque trop joli, en fait.
Ah, bah, oui. On écoute la réponse.
Avec la bouche à la taille que l'on veut.
Fred Goetti m'a dit que c'est France Gall.
Fred Goetti marque un point, même s'il n'est pas invité dans le quiz. Effectivement, c'est France Gall, les petits ballons, paroles de Gainsbourg, ce coquinou de Gainsbourg, on peut quand même le préciser.
C'est juste après les sucettes à la menthe.
C'est juste après les sucettes à l'ANI, oui. Attention, elle aime le curé du village. Francky Vincent ou pas Francky Vincent? On en est là, les amis.
Vous dites non, Daniel Picouli, encore?
Je dis non tout le temps.
Et alors, moi, je dis non, je dis que c'est pas Francky Vincent.
Non, c'est pas Francky Vincent, mais vous devriez le connaître en tant qu'expert télé, c'était...
Elle aime le cul,
Elle aime le cul.
Patrick Sébastien.
Ah oui, ou alors là, en l'occurrence, un imitateur qui imite Patrick Sébastien. Non, c'est Patrick Sébastien, ouais. Effectivement, dans l'album Sans filtre, qui portait bien son nom.
C'est tourner les serviettes avec ça.
On pourrait faire un même reproche à Francky Vincent. Patrick Sébastien, là. Fait que musicalement, c'est la même chose que tourner les serviettes. Attention, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça peut dire beaucoup. Alors, Francky Vincent ou pas Francky Vincent?
Non, arrêtez, vous pouvez pas faire tout France. Mais pas Francky Vincent.
Ah, mais je vais dire là ce coup-ci. Allez, hop.
Oui.
Mais non.
Eh bien, oh. Oui.
Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail.
Ah, non,
c'est beau.
Mais oui, les amis.
Zardou encore, je sens que.
C'était Francky Vincent sur son album Le Binôme du siècle en duo avec Evangeli. Alors, attendez. C'est un grand album. Si vous ne l'avez pas dans votre discothèque, c'est une faute.
Une faute de goût.
Alors, attention, 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 attention. Elle avait une jolie frimousse, mais ses mœurs s'étaient dissolues. Elle suçait plus du tout son pouce. Ça veut pas dire qu'elle suçait plus.
Pas Francky Vincent. Non.
Allez, tiens. Allez, vas-y, Francky.
Vas-y, Francky, c'est bon ou pas?
Elle avait une jolie frimousse, mais ses mœurs s'étaient dissolues.
Qui c'était?
Les colonies de vacances. Hein.
C'était les colonies de vacances. C'était Pierre Perret. Effectivement, les sœurs jumelles sur l'album Les chansons érotiques coquines. Qui remporte ce quiz?
Oh, c'est dingue, c'est tout ça.
C'est Eva qui remporte le quiz.
Bravo, yes.
Ça, c'est un événement ravissime. Je crois qu'on peut effectivement l'applaudir.
Sur Francky
Vincent.
Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'histoire de l'art. C'était notre quiz Francky Vincent ou pas Francky Vincent. Daniel Picouli a été placé sous oxygène, mais il reste quand même avec nous jusqu'à 18h. Un petit rhum, ça peut aider à s'en remettre. À suivre, c'est une sortie idéale en famille, à la fois ludique, elle fait également réfléchir sur nos modes de consommation. L'expo Je mange donc je suis au Musée de l'Homme à Paris. On a envoyé Eva la tester pour vous, ça a failli être son dernier reportage.
Je me suis étouffée.
Oh non, pardon.
Vous avez un renvoi?
Non, pas un renvoi, je me suis... Il y a un truc qui est resté coincé.
Qu'est-ce que c'est? Alors là, les amis, je n'ai pas demandé ces sons supplémentaires. Le son se suffisait à lui-même, je ne cautionne pas ce que j'ai entendu. Suivez le guide via les tâches de blanquette de fouet. Ça va pas. Eva Rock vous raconte l'expo sur l'alimentation actuellement au Musée de l'Homme à Paris. Juste après, Gims et Sting restent sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission hybride à cheval sur l'humour et l'info. Et en Amazon sur ce cheval, la Calamity James du journalisme. Ma complice Eva Rock, que j'avais quelques scrupules à envoyer sur le terrain, je me disais, elle est si populaire que les gens risquent de la harceler dans la rue. Puis vendredi, alors qu'on enregistrait l'émission en public, j'ai subitement réalisé qu'elle était populaire, certes, mais bon, de là à susciter une émeute.
Vous êtes toujours chaud, le public ?
Ouais !
Fort de ce constat, ma chère Eva, on vous a donc envoyé tester une expo très
oui,
en vue à Paris. Celle que propose actuellement le Musée de l'Homme, ça s'appelle « Je mange, donc je suis ».
Et oui, parce que quand j'ai vu cet intitulé, évidemment, je me suis précipitée au Musée de l'Homme. Voilà pour la promesse, hein. « Je mange, donc je suis ». Et il me fallait un guide de luxe, en l'occurrence Olivier Pouls, histoire de voir...
Olivier Pouls, qui est notre expert gastronomique,
pour voir si l'expo était sujette à caution ou pas, s'il y avait des informations à rejeter ou au contraire à valider tout ce qui était dit. Alors, trois espaces sont à visiter. Le premier est consacré au rapport entre le corps et la nourriture ou comment l'alimentation a façonné notre anatomie à travers les époques. Et parmi les objets présentés, première surprise.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'histoire et en fonction des sociétés, la maigreur et la rondeur, voire l'obésité, ont été perçues de manière très différente. Là, on a un corset qui illustre la femme, même pas mince, hein, maigre, les mannequins notamment des années 90. Et puis là, dans certaines sociétés, les femmes, au plus elles étaient grosses, au plus elles étaient considérées. Et là, on voit un objet qui sert à gaver les femmes. C'est complètement délirant, quoi.
Un appareil à gavage, exactement. C'était en Mauritanie et c'était encore utilisé au XXe siècle. C'est un des objets que vous allez pouvoir voir. Alors, le deuxième volet d'exposition, lui, va s'attarder sur les arts de la table dans les différentes civilisations, sur les dimensions religieuses, sociales et politiques de l'alimentation, avec notamment des animations vidéo sur les menus diplomatiques. Pourquoi on présentait tel plat selon les chefs d'État, etc. Et puis, la troisième partie, c'est le rapport entre la nature et la consommation alimentaire, avec toutes ces innovations alimentaires qui foutent un peu la trouille, vous savez, une gélule en guise d'assiette de fromage ou une poudre au goût blanquette de veau. Alors autant vous dire que quand on s'est pointé devant ce stand-là,
oui, Olivier Pouls,
j'ai cru qu'on allait perdre Olivier Pouls, mais c'était pas fini.
Il y a des trucs bizarres là au fond. Vous voyez des steaks bizarres, on dirait des crottes.
Ça aussi, c'est très probablement ce qui va nous arriver, c'est-à-dire que la viande, on va la cultiver en laboratoire. On a déjà commencé, on est capable aujourd'hui de faire un steak haché en laboratoire, c'est-à-dire sans tuer le moindre animal. Ça, c'est clairement une piste qui est aujourd'hui à nos portes, hein. C'est pour les années qui viennent.
Et donc, devant nous, il y avait bien trois steaks qui n'étaient pas des steaks de bœuf.
Daniel Piccoli, vous avez déjà testé le
la viande mécanique
en laboratoire.
Ça s'appelle la viande mécanique, mais ça fabrique que du muscle. C'est-à-dire que ça ne fabrique pas la graisse qui donne le goût. Donc ça n'aura pas de goût.
Mais c'est juste une question de temps. Ils vont probablement réussir.
Ils vont trouver. Vous imaginez, ça veut dire supprimer les éleveurs, ça veut dire supprimer les vaches, parce que à cause des pets de
vaches. Certains, supprimer la souffrance animale aussi.
Absolument,
Mais alors, vous venez de résumer toutes les problématiques qui sont envisagées dans cette exposition. Alors, plus sérieusement, avec Olivier Pousse, on vous la conseille vraiment, cette exposition, à visiter en priorité avec vos enfants pour comprendre à la fois comment se sont construits nos rapports à la nourriture et quels sont les enjeux en matière d'alimentation. C'est une expo à la fois informative et ludique, et c'est à découvrir, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est jusqu'au 1er juin 2020, donc si vous venez en vacances, notamment à Paris, prenez des places, c'est pas cher, et c'est au Musée de l'Homme, c'est à la place du Trocadéro, en plein centre de Paris. En plus, le musée est très beau.
Et juste en face, vous avez une excellente brasserie, vous pourrez prendre un très bon tartare de bœuf. Merci beaucoup, Eva Rock. L'équipe est sauvage se poursuit dans une insouciante allégresse proche de celle de Francky Vincent et Evangeli quand ils ont décidé d'enregistrer une reprise de Que je t'aime.
Quand tu te sens plus chatte. Et que tu deviens.
Parce qu'ils ont fait ça aussi, hein. Comme on a enquêté, on est tombé sur des perles.
Pendant qu'il y a une petite. Le programmateur, il peut me trouver qui chantait Julie Arrousse. Alors, parce que je cherche qui Julie Arrousse, parce que c'est elle qui chantait des chansons un peu.
Des chansons un peu grivoises. Il faut absolument qu'on retrouve ça d'ici la fin de l'émission. L'équipe sauvage se poursuit. La grande compétition des journées d'Europe 1 continue. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre pour évoquer les derniers secrets d'Alexandre Dumas et un phénomène qui n'est plus tabou, l'alcoolisme au féminin. Le tout sous l'œil d'un invité arbitre qui, certains jours, a du mal, même si c'est son rôle à critiquer le travail de nos journalistes. Et puis certains jours, on reçoit Philippe Geluck qui lui arrive parfaitement à critiquer un journaliste. Il va même assez loin dans le détail.
Et en plus, il a un zizi de moineau.
Oui, Jean-Philippe Ballas, vous avez un droit de réponse. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes, s'apprête à entrer dans sa deuxième phase. Phase que j'aime à appeler, avec cet amour des mots, cette fougue littéraire qui est la mienne, la phase 2. Sous l'œil de l'écrivain Daniel Piccoli, que je sens fan de ma plume, dans quelques instants, deux nouveaux candidats au titre de chroniqueur du jour vont nous rejoindre. On évoquera notamment le phénomène longtemps tabou de l'alcoolisme au féminin. Mais le principal problème pour Daniel Piccoli, ce sera de réussir à départager nos journalistes sans se laisser influencer par leur vile manœuvre, dont la bassesse frôle parfois l'abjection, comme hier lorsqu'Axel de Tarlet a tenté de truquer le vote de l'invité Marius Colucci, qui heureusement n'est pas tombé dans le panneau.
On m'a donné une feuille avec une petite photo de tous les chroniqueurs et leur nom pour que justement, je comprenais pas, mais je viens de comprendre, c'est pour que je puisse t'en désigner un à la fin. Axel de Tarlet vient de me dire, attention, il y a un truc qui est tombé par terre. Évidemment, il n'y avait rien. Alors voilà, il m'a filé un truc avec que Axel de Tarlet, sa photo partout.
Je suis prêt à tout pour gagner.
Ça, il fallait vraiment y penser.
Moi, j'ai les quatre.
Vous avez quatre. Pour l'instant, pas de tricherie. Mais méfiez-vous, c'était en fin d'émission qu'il y a eu cette petite astuce.
Il vous a beaucoup fait rire, il faut le dire. Hein.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, une émission hybride à la frontière du journalisme et du divertissement, du chic et du potage. Il faudrait des heures pour vous en résumer le concept. La seule chose à retenir de notre émission, comme disait notre invité vendredi Philippe Geluck, c'est que ma foi...
Elle est bonne.
Aujourd'hui, c'est l'auteur Daniel Piccoli qui nous accompagne, fervent défenseur de la diversité. Vous le retrouvez sur France O et aussi désormais sur France 3. Page 19 sur France O et les témoins d'outre-mer sur France 3. On continue de parler de ces rendez-vous ensemble. Juste le temps de vous présenter, mon cher Daniel, nos deux ultimes journalistes en compétition cet après-midi. À ma gauche, en interne, on l'appelle tout simplement la Reine Roger. Première du classement européen avec 39 points, Ève Roger, chef du service société. Son sujet du jour s'annonce une fois de plus passionnant. C'est un tabou qui est en train de tomber peu à peu. Un problème qui nécessite une réponse et des solutions adaptées, l'alcoolisme féminin. Vous avez eu le temps de vous intéresser un peu au sujet, Eva ?
J'ai pas encore eu le temps parce que je suis encore ivre.
C'est QFD, hélas.
Ève. C'est sûr.
Oui. Donc, je vous parlais justement de l'alcool et des femmes. Et le plus intéressant, c'est que les femmes auxquelles on pense, c'est pas celles auxquelles on pense justement, ce sont plutôt des femmes instruites et qui ont ont de hautes responsabilités professionnelles.
Donc c'est un alcoolisme caché, mais c'est peut-être redondant ce que je dis. L'alcoolisme est toujours caché, non, plus ou moins.
Pas forcément. Pas forcément, non. Pas forcément.
Mais chez la femme, il l'est plus que chez l'homme. À vos côtés, Eve Roger, il sait que face à vous, il n'a aucune chance, mais comme Junio dans Les Bronzés font du ski.
J'y vais à fond.
Bonjour Nicolas Caro.
Sur un malentendu, ça peut marcher.
Ça peut toujours marcher, vous êtes notre expert littérature. Et quand je dis que vous n'avez aucune chance, je suis vraiment une belle ordure, puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez gagner si et seulement si notre invité est fan d'Alexandre Dumas.
Ah bah ça, je sais déjà que oui. Bah. C'est aussi pour ça que je fais la chronique.
On est entre Carteron avec voilà. Dumas.
Société des amis d'Alexandre Dumas.
Mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur Dumas ?
On les sait, mais c'est toujours savoureux, en tout cas.
Ah, non, mais vendez-vous mieux. Je vous explique comment on vend un sujet.
Non,
mais
non,
trois choses que vous n'avez jamais entendues sur Alexandre Dumas. J'en prends l'engagement. Restez sur Europe 1. C'est comme ça qu'on fait un teasing.
J'ai trop de respect.
Les derniers secrets d'Alexandre Dumas ou le tabou de l'alcoolisme au féminin. Quel sujet piquera le plus la curiosité de notre invité ? Réponse juste avant 18h. Vous votez, vous aussi, chez vous, via Twitter. En attendant, on apprend à mieux cerner notre invité. Qu'incarne pour vous Daniel Picouli ? On est allé vous poser la question dans la rue. Voici, non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, on a tout laissé.
Bonjour Daniel Picouli.
J'avais fait lire Le Chant de Personne à mes élèves.
Il me fait l'effet d'un écrivain social.
C'était intéressant parce que ça leur montrait qu'on pouvait dépasser des grandes difficultés comme la dyslexie ou être très mauvais en orthographe et devenir quand même écrivain.
Oui, oui, il faisait une émission à la télévision.
Café Picouli.
Picouli, ah, c'est pas Piketty.
Il était agréable à écouter, connaissant son sujet en général.
C'est pas un acteur ou un... Ah, Picouli, oui.
Il est métis. Ça roule bien, hein.
Le Chant de Personne. C'était sur son enfance. Ah oui, j'avais bien aimé, oui.
Il a une tête de rugbyman.
Et au revoir, Daniel Picouli. Bye bye.
Alors, tête de rugbyman.
Tête de rugbyman, beaucoup de choses.
Non, mais il y a des trois quarts qui... Oui, c'est vrai.
Oui, c'est
vrai.
Ça.
Dans l'équipe de France, les trois quarts qui ont un peu bronzé. Oui, absolument.
Alors, Daniel Picouli, on a l'impression que pour beaucoup de gens, vous incarnez celui qui, d'une enfance socialement, en tout cas difficile, a su se propulser vers la réussite par le savoir. Est-ce que c'est comme ça que vous résumeriez votre trajectoire sauvée par la curiosité ?
Non, la curiosité, oui, mais par les parents. Hein. Ouais, fondamentalement, moi, j'ai écrit des romans pour rendre hommage à des gens qui ont élevé 13 gosses, parce que je suis 11e de 13 d'un père ouvrier. Donc, c'est cela. Moi, j'ai mon père. À 21 ans, il épouse ma mère qui est veuve, qui a 9 enfants. Il prend la mère, les 9 enfants, il en fait 4 de plus, et tout ça marche. Donc moi, je n'ai juste qu'à rendre hommage à ça. Ça m'ennuie aujourd'hui de même d'être un représentant de la banlieue, parce que c'est une banlieue qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mmh. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Picouli, on le met au même âge dans la cité qui était la sienne, et il ne deviendra jamais écrivain.
Mais pourquoi ?
Il ne deviendra peut-être même jamais professeur.
Pourquoi ce fatalisme aujourd'hui ?
Si on voit, moi, je suis entré, je vais vous donner juste un exemple, je suis entré dans la fac d'Assas pour faire mon droit sans le bac. Avec un BE, un brevet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un bac S, on vous le dit même à la première journée d'orientation, il y a le portique qui sonne et vous dégagez. Moi, je suis un ancien prof, je vais dans les écoles, j'ai longtemps et toujours et encore maintenant milité pour que l'école soit ce qui va te permettre de sortir d'où tu viens. Et aujourd'hui, je suis un menteur, si je dis ça. Je suis un menteur, donc je ne me sens pas autorisé à le faire.
Ouais. Et pourquoi vous ne vous autorisez pas à devenir homme politique ou en tout cas essayer de pénétrer le système pour faire changer l'éducation nationale ?
Non, mais parce que moi... Bah
vous auriez
un
rôle à jouer.
Oui, j'ai été syndicaliste, ouais, mais je me dis, Daniel, si tu es homme politique, tu vas devenir pourri. Non, je ne serai sans jamais un homme politique. Vous êtes préservé de ça.
Sans aller jusqu'au métier d'homme politique, si on peut parler de métier, vous n'avez jamais été sollicité pour conseiller, Jean-Michel Blanquer pourrait vous appeler. On sent que vous fourmillez d'idées, vous avez une vision globale de l'éducation nationale, vous avez un parcours emblématique, vous pourriez apporter quelque chose.
J'ai eu, comme beaucoup d'écrivains, on a fait un dîner avec M. Blanquer qui s'est bien passé, c'est un gars agréable et dont on peut soutenir un certain nombre d'initiatives. Dernièrement, ses positions m'ont un peu moins emballé. C'est tout ce que je peux dire, quoi, pour faire un peu de litote. C'est tout. Non. Moi, bien évidemment, on ne vient pas me chercher parce que je suis un peu radical. Je dis que ce qui s'est passé depuis 40 ans est un scandale de gauche, de droite, quels que soient les gens qui ont été au pouvoir. Donc, quelle place j'ai à faire ? J'ai rien à faire là-bas. J'ai rien à faire parce que je vais soit dénaturer ce que je pense, soit apparaître comme un emmerdeur, tout simplement. Mais ça ne m'empêche pas, hein. Ça ne m'empêche pas. Ouais, je suis d'accord. J'avoue, je ne peux pas m'en empêcher. Il n'empêche que je suis profondément meurtri de ça.
Vous retrouvez toute sa curiosité et sa faconde légendaire sur France O et désormais sur France 3. Daniel Picouli passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, elle est aussi exigeante dans sa vie professionnelle que dans sa vie intime. Ève Roger est une femme à poigne qui, trop souvent, s'est dit
« On y va, et puis, une fois qu'on y est... »
Désormais, quand un homme n'est pas à la hauteur, elle ne s'embarrasse plus de politesse et s'exclame
« Abrège !»
Même si le type n'a même pas encore enlevé ses chaussettes. Oui, Ève Roger est une journaliste aguerrie. Et aujourd'hui, elle a enquêté pour nous sur un phénomène longtemps ignoré, l'alcoolisme au féminin. Tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit en compagnie de l'écrivain Daniel Picouli et l'heure est venue de dérouler le tapis rouge pour notre PSG à nous. Elle survole le championnat européen comme le PSG et la Ligue 1. Journaliste consciencieuse, on imagine qu'hier soir, jusqu'à tard dans la nuit, elle s'est posé la question.
Est-ce que je vais me prendre le mur avec ma tête si le type continue à me pousser vers la cloison ?
Non, je veux dire avant ça. Vous vous demandiez, est-ce que j'ai suffisamment bossé ? Est-ce que mon sujet va avoir les faveurs de Daniel Picouli ? Voilà. Eh bien, ma chère Ève Roger, nous n'allons plus tarder à le savoir. Vous nous parlez cet après-midi d'un sujet qui a longtemps été tabou, l'alcoolisme féminin.
Alors, on va commencer avec un chiffre, hein, comme souvent. 10% des Français ont un problème avec l'alcool. Alors, on va évacuer tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un problème avec l'alcool? Oui. Ça veut dire ne plus avoir le choix, c'est-à-dire c'est, je bois ou je bois pas, c'est forcément oui. Et dès le réveil, penser au moment où on va boire dans la journée. Et ça parasite toute la journée.
Ça, c'est la définition de l'alcoolisme?
C'est une façon de comprendre si on a vraiment un problème avec l'alcool. C'est-à-dire vraiment, je suis obligée de boire et j'y pense toute la journée. Et donc, c'est difficile de dire combien il y a de femmes dans ces 10%. C'est que les femmes aujourd'hui encore boivent 3 fois moins que les hommes, mais que l'écart tend à se réduire pour la génération 2000, pour les 18-25 ans aujourd'hui. Donc, c'est difficile à évaluer aussi, parce que vous l'avez dit, c'est un sujet tabou. Des hommes, on dit encore qu'ils ont une bonne descente. Ils peuvent boire en groupe, ils peuvent boire à plusieurs. Mais les femmes, elles se cachent, elles boivent seules et le vivent avec un double sentiment, à la fois de culpabilité et puis de honte.
Et que sait-on alors du profil de ces femmes?
Alors, le plus étonnant, je vous l'ai dit, les plus touchées ne sont pas celles qu'on croit, ce sont les femmes qui réussissent socialement, qui donnent le sentiment d'avoir confiance en elles, des femmes qui ont de hautes responsabilités professionnelles mais aussi familiales. Donc, elles utilisent l'alcool comme un anti-stress, un anxiolytique sans ordonnance. C'est quand même assez facile d'acheter à boire pour se détendre après une journée de travail épuisante. Et la situation la plus courante, c'est la femme qui rentre chez elle, qui part en cuisine faire le dîner, qui cache la bouteille derrière le robot mixeur, qui boit et qui se met à table comme si elle n'avait pas bu avant. Donc ça, c'est quand même très courant. Et donc, on va écouter Ariane Pommery. Elle a été pendant 20 ans juriste dans une entreprise. Et de 25 à 42 ans, elle a bu comme ça tous les soirs, beaucoup trop. Et elle a vécu cet alcoolisme seule, comme une honte.
Je passais mon temps à me cacher, je me surmaquillais. Je me disais à chaque fois, est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas quand on me parlait. Moi-même, je me disais, mais moi, je suis une mère de famille, j'ai un travail, donc je ne peux pas être alcoolique. Parce que dans ma représentation, l'alcoolique, c'était la femme qui était la SDF, celle qui n'avait pas de travail, celle qui battait ses enfants, celle qui était une mauvaise mère.
Voilà, difficile aussi, on est beaucoup dans le déni. Et dans l'histoire de ces femmes aussi, il y a souvent quand même des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
Et est-ce que les femmes sont soignées de façon différente des hommes?
Et oui, alors justement, parce que le déni est très fort, donc il faut quand même aller les chercher, il faut aller leur dire que c'est une maladie, que ce n'est pas une tare de boire de l'alcool, et puis travailler avec elles sur la confiance en soi. Et là, je voudrais vous présenter une femme formidable qui s'appelle Fatma Bouvet de la Maisonneuve, elle est psychiatre addictologue. C'est elle qui m'a raconté tout ce que je sais. Elle explique que chez ces femmes, à l'origine du trop-plein d'alcool, il y a une blessure, une cassure qui a stoppé la réalisation d'un rêve ou d'un projet. Et elle emploie une jolie expression, elle dit « il y a eu un rendez-vous manqué et la prise en charge, tout le soin consiste à retrouver cet endroit de la rupture pour ensuite reprendre son chemin. » Écoutez-la.
Ces femmes-là ont souvent un potentiel créatif très important et c'est vers là qu'on doit aller parce qu'elles vous disent « mais finalement, où est-ce que je vais ressentir ces sensations fortes que je cherche ?» Eh bien, les sensations fortes peuvent être retrouvées dans un rêve qu'on essaye de réaliser et ça donne des sensations fortes beaucoup moins toxiques et beaucoup moins nocives que l'alcool. Mais ce sont des chrysalides qui se transforment en papillons. C'est la conquête de la liberté.
Quand vous l'écoutez, ça paraît si simple de passer de chrysalide à papillon. Et pour ça, toutes les femmes qui nous écoutent, je peux que leur conseiller de rejoindre l'association de Fatma Bouvet de la Maisonneuve qui s'appelle Addictel. Addictel, voilà.
C'est extrêmement compliqué cette question de l'alcool, notamment pour les hommes. Il y a encore une dimension par la littérature aussi, une dimension romantique presque de l'alcool qui apparemment est complètement absent dans la tête des femmes qui disent il faut au contraire donner le change et montrer qu'on... Enfin, cacher ça.
Faire semblant.
Ça rend la chose encore plus compliquée.
Bah, on n'imagine pas un Bukowski femme venir à la télévision avec sa bouteille. Ouais. Et l'image de la femme et d'alcoolisme, elle est quasiment statufiée dans Nana et dans l'Assommoir, Zola. C'est-à-dire des femmes qui finissent par se battre, et se battre entre elles, pas contre les hommes, mais entre elles. Donc c'est aussi des images comme celle-là qui sont très fortes, que ce soit en littérature ou au cinéma.
Votre chronique, Eve, aura-t-elle intéressé notre invité ? Je le sens, je crois que oui. Réponse en tout cas, juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, Eve, c'est la question qui vous hantera ce soir sous la couette lorsque votre partenaire se glissera à vos côtés. La question qui nous hante tous les soirs.
Est-ce que c'est vraiment le bonjour pour l'ovulation ?
Non ! Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix ? Dans le labyrinthique écran d'accueil, il est facile de s'égarer. Notre fil d'Ariane numérique s'appelle désormais Eva Rock, qui nous guidera une fois de plus vers des choix judicieux. Les conseils d'Eva arrivent juste après. Bon entendeur, le temps est bon sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le premier radio-crochet journalistique où chaque après-midi, vous votez pour votre chroniqueur préféré sous l'œil d'un arbitre avec qui on célèbre aujourd'hui l'outre-mer, loin des clichés.
Mer, sable fin, transat et morito.
Justement, on essaye de sortir un peu de cette image d'Épinal avec l'écrivain Daniel
Mais
Piccoli.
Mais c'est pas morito, c'est tirant,
petit ponche plutôt, déjà. Daniel Piccoli, hors antenne, on parlait durant la chanson de Céline Dion, de Netflix et de ces plateformes qui nous donnent l'embarras du choix. Aujourd'hui, on ne sait plus par quoi commencer. Vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous avez fait du théâtre. Quand est-ce que vous produisez votre série pour une de ces plateformes ?
Non, on peut proposer des sujets. Non, mais moi, c'est fascinant. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce qu'on appelle le déclin de la lecture, enfin en masse en tout cas, c'est un cas, c'est parce qu'on a un petit peu confondu la lecture et le besoin d'imaginaire. Et il y a un besoin d'imaginaire qui maintenant est, j'allais dire, assuré par beaucoup de supports, dont Netflix, dont les séries.
Moi, je suis un grand fan de séries, je ne vais pas vous démentir là-dessus. Seulement, c'est peut-être une activité un peu plus passive pour regarder une série. C'est moins impliquant que de se plonger dans un roman qui nécessite de fabriquer nos propres images.
Non, moi, je prétends qu'en regardant une série, on apprend les schémas narratifs beaucoup mieux. Que dans un livre. C'est-à-dire qu'on repère des schémas narratifs que l'on intègre et après on devient des experts et des critiques. On devient très critique quand on regarde une série parce qu'on a une culture de la série qui est en fait une culture de comment on raconte une histoire. C'est de ça dont il s'agit. On est devenus des professionnels de la narration.
On est tous devenus des pros. C'est pas faux ce que vous dites. Très bien vu, Daniel Piccoli. Et justement, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix pour choisir la série ou le documentaire que nous allons regarder. On s'engueule souvent avec notre conjoint. Heureusement, il existe 17 minutes de gagner la rubrique des Varocs.
Eh bien, je vais vous parler d'un documentaire absolument fascinant qui est consacré à John McEnroe. Je sais que vous adorez le sport, Daniel Piccoli, qui est intitulé « L'Empire de la Perfection » et qui est à voir sur la plateforme OCS.
Un autre caractériel après Jared.
D'ailleurs, il se ressemble un petit peu, c'est étonnant. Ce que vous dites.
Il crie pareil.
Exactement. C'est la perfection érigée en mode de vie chez l'enfant terrible du tennis. Preuve en est, les films qui ont été tournés en 1984 à Roland-Garros. Des dizaines d'heures de tournage centrées uniquement sur le joueur qui ont été retrouvées dans les archives de l'INSEP, vous savez, c'est l'Institut National du Sport. On est sur le court avec John McEnroe, admirant sa dextérité et souriant aussi à ses coups de colère.
Can you show me the mark, please? Why not? Can he show me the mark? That's all I want to see.
Vous l'entendez, John McEnroe, très énervé, s'adresse à l'arbitre. Montrez-moi la marque. Montrez-moi que cette balle est faute. Et il répète ça à plusieurs reprises pendant de longues minutes à l'arbitre. Montrez-moi la marque.
Ils en ont fait une pub.
Ils en ont fait une pub, exactement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a mis le point gagnant. Parce qu'il a cette capacité de se reconcentrer. Ce documentaire montre à quel point ces énervements étaient salutaires chez McEnroe. Alors que n'importe quel autre sportif perdrait en concentration, en énergie, lui, il est galvanisé par cette atmosphère hostile, c'est même une drogue, dit le réalisateur chez McEnroe. Le documentaire va se terminer sur la rencontre face à Evan Lendl, toujours en finale du tournoi de 1984. Match épique, plus de 3 heures de match, 5-7, pour un combat finalement remporté par Lendl, alors que McEnroe était archi favori. Une défaite et une douleur pour l'Américain qui ne reviendra pas en tant que joueur à Paris à cause de ce match. Écoutez ce qu'il en dit.
J'en fais encore des insomnies. C'est même dur de venir aujourd'hui commenter le tournoi de Roland-Garros. Pendant un jour ou deux, je ressens comme des nausées, rien que d'être là et de penser à ce match.
Alors, on dit souvent qu'un match de tennis, de foot ou autre discipline est une tragédie, un drame au sens de drama. Eh bien, cet excellent documentaire vous le prouve. Que vous aimiez ou pas le tennis, que vous aimiez ou pas McEnroe, vous serez sans doute fasciné par ce film intelligent et ludique. Ça s'appelle L'Empire de la Perfection et c'est à voir sur la plateforme OCS.
Vous Après, êtes... Lendl a fait des cauchemars avec Chang. Hein.
Oui, oui, c'est pas possible. Et un service.
Le service à la cuillère de Chang, c'est ça que vous faites référence. Piccoli, vous êtes toujours fan de foot ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Parce qu'à une époque, vous disiez que vous étiez plus fan de la mentalité des footballeurs.
Ah avec, non, mais c'est... on m'a même dit, mais comment c'est-il que vous êtes contre le VAR?
La vidéo.
Oui, parce que si on parle de dramaturgie... Mais attendez, j'attends.
Là, on vient de dire le VAR. La vidéo la demande.
Je suis traumatisée par
la SVT. Non, mais j'attends le moment où les publicitaires vont provoquer le VAR, puis pendant que les mecs regardent l'écran, on va nous passer une pub. Moi, j'ai l'impression que ça va faire comme le tie-break.
C'est la prochaine étape.
C'est la prochaine étape. À mon avis, c'est celle-là. Ouais.
En tout cas, merci Eva Roque pour ce choix, le documentaire sur John McEnroe. Europe 1. L'équipe est sauvage continue. 2 heures pour décoder la culture avec des experts. Dans un instant, notre spécialiste littérature nous révélera 3 choses qu'on ne savait pas sur Alexandre Dumas. Et si Nicolas a enquêté avec autant de ferveur sur Dumas qu'Eva l'autre jour sur notre invité Jamy Gourmaud.
Il était monté le Gourmaud.
Alors oui, tout, vous saurez tout sur Alexandre Dumas, tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue sous le haut patronage aujourd'hui de l'écrivain, scénariste et présentateur. Je trouve, effectivement. Mais vous, vous êtes très silencieux en revanche, hein, Daniel. Je me sens pas à l'aise aujourd'hui. Hein.
J'essaie de m'y mettre.
Daniel Piccoli, écrivain, scénariste, présentateur télé. La liste n'est pas exhaustive puisque vous avez aussi été prof à une époque. On dit que les anciens mauvais élèves font souvent des profs sévères. Est-ce que c'était votre cas? Vous n'étiez pas un prof cool?
Non, ça fait des profs qui comprennent qu'on ne comprenne pas. Alors qu'il y a beaucoup de profs qui sont des anciens premiers de la classe et qui ne voient pas pourquoi on ne comprend pas. Et moi, d'office, je posais qu'ils ne le comprenaient pas. Et je vous assure, ça m'arrangeait la vie. Voilà, c'est tout. Et puis en plus, moi, j'ai enseigné en banlieue, comme on dit, dans les quartiers. Aujourd'hui, on va donner des primes aux profs pour qu'ils restent. Mais moi, je peux vous assurer que, voyant mes petits zozos et me rappelant mes élèves, ils vont dire aux profs, ah, alors, grâce à nous, tu touches des primes. Et je vous assure que on ne se rend pas compte de l'effet pervers que peut avoir des mesures comme celle-là, parce que je les connais tout de suite. Ils vont on est à 10 000. j'ai rien dit. Hein.
Justement, Daniel, c'est à ce prof que nous nous adressons aujourd'hui, Daniel Piccoli, puisque tout à l'heure, il vous faudra noter les journalistes d'Europe 1. 4e et dernier concurrent du jour, notre monsieur Livre. Coqueluche de Saint-Germain-des-Prés, être raffiné duquel jaillit parfois des aphorismes étourdissants et imagés, vertigineux geyser de poésie.
Le cygne n'est jamais qu'un dromadaire avec de l'eau jusqu'aux couilles. C'est assez visuel.
Oui, alors Nicolas Caro, aujourd'hui on quitte les rivages surréalistes pour redécouvrir un des auteurs les plus populaires de l'histoire de la littérature française, Alexandre Dumas.
Et oui, parce que je sais que Daniel Piccoli a un lien intime avec Alexandre Dumas. C'est l'effet Dumas d'ailleurs, quand on le lit, on devient très vite ami avec l'écrivain. Ça marche aussi avec Stephen King, ce genre de choses. On devient très copain avec Alexandre Dumas quand on le lit jeune. Et vous, Daniel Piccoli, vous avez un lien supplémentaire. Vous avez même mis en scène le père d'Alexandre Dumas dans La Nuit de Lampedusa, l'un de vos romans, il me semble. Et je voulais vous parler de Dumas, parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Et notamment, j'ai quelques infos comme ça que j'ai glanées au fur et à mesure. Et notamment, l'origine du titre Monte Cristo. D'où ça vient, le comte de Monte Cristo? En fait, Dumas était au début des années 1840 en Italie et il côtoyait la famille Bonaparte et notamment son ami Jérôme. Et Jérôme lui demande s'il peut emmener son fils, qui s'appelait aussi Napoléon, un gamin, faire un petit tour d'Italie, comme ça se faisait beaucoup pour les jeunes garçons de bonne famille. Et donc Dumas dit ok, il emmène Napoléon, il visite un peu l'Italie. Ils vont sur l'île d'Elbe, évidemment, pour rendre hommage à l'aïeul, Napoléon Bonaparte. Et puis il voit un bateau comme ça et Dumas propose d'aller faire un petit tour. Donc ils montent dans le bateau, il y a un batelier qui les emmène et puis ils voient une île un peu au loin et Dumas dit qu'est-ce que c'est île? Et le type lui répond ça c'est l'île de Monte Cristo, il y a juste des chèvres dessus, on peut chasser éventuellement. Dumas dit au petit Napoléon c'est super, on va aller chasser. Mais le batelier leur dit attention, si vous allez chasser, vous pourrez pas revenir avant quelques jours, puisque c'est une île qui sert de quarantaine pour les étrangers. Et donc, il y a des bactéries, tout ça. Si vous posez le pied dessus, après, vous êtes un peu coincé. Dumas dit, on n'a pas que ça à faire non plus, donc on va juste faire le tour de l'île. Et l'île s'appelle l'île de Monte Cristo. Et il fait une promesse au jeune Napoléon. Il lui dit, mon prochain livre, dans le titre, il y aura le nom de cette île, Monte Cristo. Et donc, il donne ce nom à son héros, Edmond Dantès.
Elle existe toujours, cette île?
Elle existe,
toujours baptisée
Monte
Cristo.
C'est un rocher, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, mais on peut toujours essayer d'y chercher un trésor. Ça peut
ou des cigares.
Au bout des cigares, pour les amateurs.
Dans le même genre, il y a la création des mousquetaires. Là, c'est Dumas qui est à Marseille cette fois et il doit rentrer à Paris. À l'époque, c'est bien 48 heures de voyage. Donc, il prend quelques livres à la bibliothèque de Marseille qu'il emprunte. Il y a un truc sur Louvois, il y a un truc sur Louis XIV et il a trouvé un livre par hasard, pas connu du tout, d'un écrivain qui s'appelle Courtis de Sandra et qui est titré « Les mémoires de Monsieur d'Artagnan ». Une sorte de roman comme ça, avec une sorte de faux mémoire de Monsieur d'Artagnan. Donc il lit ça sur le retour et il est fasciné parce qu'il découvre les aventures d'un certain d'Artagnan avec ses amis mousquetaires Aramis, Porthos et Athos.
Mais comment ça, c'est pas l'esprit de Dumas qui a créé d'Artagnan?
Eh bien non, pas
c'est
du tout.
Non mais d'Artagnan c'est un personnage historique. Hein.
Voilà,
c'est
celui qui a exactement.
Été... Non, Aramis,
ces faux mémoires de Monsieur d'Artagnan en fait s'inspirent du vrai d'Artagnan qui était effectivement un mousquetaire sous Louis XIV, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au personnage. Mais Dumas n'a pas du tout inventé ni Athos, ni Porthos, ni Aramis, qui eux aussi ont existé.
Ah, eux ont
passage.
Existé aussi.
Oui, oui. Voilà. Et donc il rentre, il écrit à partir de là Les Mousquetaires. D'ailleurs, pour la petite histoire, il n'a jamais rendu les livres à la bibliothèque de Marseille.
Ah, c'est pas
qu'ils les attendent toujours.
Non, ça me rappelle le jour, on n'en rend jamais.
En fait, c'est ça le génie de Dumas, c'est les personnages. Il était très attaché d'ailleurs à ses propres personnages. Vous savez qu'au bout du cycle des 6000 pages des Mousquetaires, tous les Mousquetaires meurent un par un. Et quand un jour, Alexandre.
Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est dommage.
Ouais, bah, on peut spoiler les Mousquetaires.
Ça, alors là, vous ne regardez jamais Netflix, vous. Hein,
mais,
parce
non,
que là,
mais vous le savez de toute façon, parce que dans le troisième tome des Mousquetaires, le vicomte de Bragelonne, ils ont 65-70 ans, ils arrivent à la retraite. Et on sait que c'est la vie, c'est comme ça, Mathieu. Mais justement, c'est intéressant parce qu'un jour, Alexandre Dumas fils tape à la porte du bureau de son père. Il entre et là, il voit son père se retourne, il est en train d'écrire et Alexandre Dumas est en larmes. Et son fils lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, papa ?» Et Alexandre Dumas lui dit « J'ai été obligé de tuer Porthos.
Oh » Ça, c'est magnifique ou pas ? D'autant plus émouvant, idée de sortie pour le week-end, les amis, au château de Monte-Cristo, à Marly-le-Roi, où on voit le cabinet de travail qui a été reconstitué d'Alexandre Dumas, avec le nom dans la façade inscrit de chacun de ses romans.
Ça l'a ruiné d'ailleurs.
Oui, j'imagine. Vu l'endroit.
Ce qu'il y a de formidable avec Dumas, c'est que Dumas, il fait du Dumas quand il raconte Dumas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. C'est simple, vous ne pouvez pas le croire. Dans les origines on vient de parler de Monte-Cristo, il faut remonter parfois à sa famille blanche, celle qui est l'origine, pour trouver des origines de ses romans. Mais le plus important chez Dumas, c'est que c'est un Carteron qui avait des nègres. Et c'est ça qui est fascinant chez lui, c'est-à-dire que Maquet, tout le monde le sait maintenant, a écrit au moins le découpage, aujourd'hui on dirait dans une série télévisée, faire le découpage de la plupart des grands romans d'Alexandre Dumas.
Voilà, et d'ailleurs, il avait un nègre pour un feuilleton qui était diffusé dans les journaux, donc, et il apprend un jour que son nègre vient de mourir, et donc il est stressé parce qu'il se dit « mon feuilleton ne va pas arriver ». Et il prend le journal et le feuilleton est là. En fait, son nègre avait un nègre.
C'est comme ça qu'on fait des cartes rondes. C'est ordinairement les choses.
La théorie des nègres en cascade. Merci Nicolas Caro, votre chronique remportera-t-elle les 3 points? Réponse peu avant 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est un moment qu'on redoute tous. Ce moment où l'on rentre à la maison et où l'on sait qu'on va croiser le regard de son conjoint et qu'on va être obligé de lui avouer.
Oui, j'ai eu une liaison avec Dick Rivers.
Non, on a complètement oublié de faire les courses pour le dîner. Non, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Heureusement, il y a Délices in Extremis, la rubrique qui vous permet de rentrer chez vous la tête haute.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Les discussions vont bon train hors antenne entre Nicolas Caro et Daniel Picouli, notre invité. Ça parle littérature. Ça parle notamment des prix littéraires de cette semaine. Je sens, Daniel Picouli, que vous êtes un peu circonspect quant à ces prix littéraires qui sont distribués chaque année.
On disait on parle littérature, on parle des prix. Est-ce qu'on parle littérature quand on parle des prix?
C'est la question.
C'est tout. Non, c'est quelque chose. Il faut arriver à se dire que le livre qui a été distingué par les Goncourt est le livre que les Goncourt considèrent comme le meilleur. Point. La force du Goncourt, c'est qu'il y a 300 000 personnes qui achètent le livre. Voilà. Bon, à partir de là, on peut avoir tous les débats et considérer que ça aurait pu être un tel, mais il faut... Le vrai miracle, c'est que des gens croient au prix au point d'aller en acheter pour 300 000.
Vous n'y croyez pas?
Moi, j'en ai eu. J'en ai eu. C'est pas que j'y crois pas. C'est qu'il ne faut pas relier la qualité et dire on a élu, entre guillemets, le meilleur livre de la rentrée. On a élu celui que les Goncourt considéraient comme le meilleur pour les... pour les Goncourt, pour le Renaudot, pareil.
Voilà. Mais est-ce que vous aimeriez faire partie d'un jury ou pas du tout ?
Moi, je fais partie de 4 jurys. Je fais partie d'un jury de premier roman, le prix Stanislas, le prix BPE de banque privée, le prix Marcel Pagnol, dont je suis président, le prix à Limoges. Parce que c'est le moment où on peut faire la promotion des livres qu'on aime, le donner aux autres, le faire découvrir aux autres. On fait souvent découvrir. Et en même temps, moi, je suis dans les prix uniquement pour ça. Et je suis un peu trop passionné. Et si quand il y a un jury de prix, je suis chiant, ouais.
Dans le jury,
je me jure tout de suite, tout à coup, je me sens, mais Daniel, calme-toi, on n'est pas en train de défendre un livre.
Non, voilà. c'était ça, au fond, ma question, c'était est-ce que vous verriez dans un jury du prix Goncourt, par exemple
ou... Mais c'est à eux de décider, ça, c'est à eux de décider. Encore une fois, je répète, c'est eux qui décident d'un prix, c'est eux qui décident de qui peut les rejoindre et de qui, donc, qui peut mourir Goncourt, puisque c'est une académie et c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, être dans un jury, pouvoir faire la promotion des livres que j'aime, ou de pouvoir traiter dans une chronique qui on veut et qui on a aimé et de le faire partager aux autres. Quand on a cette position-là, bien sûr qu'on a envie qu'elle soit le plus exposée possible. Bien sûr, bien sûr.
La maîtrise de la langue est un tapis volant qui vous permet de vous balader partout dans la société. Oui. J'adore cette citation que j'ai trouvée de vous dans une interview. Je trouve que c'est magnifique et c'est le message qu'on a envie d'envoyer aux jeunes qui nous écoutent.
Absolument. C'est-à-dire que moi, j'avais des jeunes de banlieue qui me faisaient le coup du Zavisiva en essayant de parler. Et d'ailleurs, je les défiais à l'argot. Je le défie à l'argot. Absolument, parce que j'ai une culture argotique et je leur disais argot deuxième langue quand vous voulez, mais français première langue. Maîtrisez. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir parler au président de la République, parler à la dame de service ? C'est la langue. Et donc, si vous maîtrisez la langue, les niveaux de langue que vous êtes capable de la rendre souple, vous pourrez n'importe où. C'est ça, c'est ce en quoi c'est un tapis volant. Les gamins de banlieue, on les repère immédiatement à leur langue. À leurs accents. Moi, quand je suis arrivé en fac de droit, où c'était un petit peu comme ça...
Vous le faites bien aussi.
On m'a dit, oui, je le fais bien aussi. On m'a dit, tu as un accent un peu populaire. Sérieux. Et je ne savais pas que j'avais un accent, tout comme j'ai découvert au téléphone, quand j'avais 15 ans, que ma mère avait un accent roulé R, la première fois que j'ai entendu au téléphone. Donc, on se promène avec des identifiants et on ne le sait pas. Donc, je disais à mes gamins, arrêtez, ne me jouez pas à ça. Et c'est formidable si vous maniez l'argot et qu'en plus vous maniez bien le français. Eh ben voilà, ça vous fait une richesse supplémentaire. Donc, tapis volant, les gars.
Tapis volant, les gars. Il aime la langue française, il nous l'a fait aimer. Daniel Picouli est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, je ne vous jette pas la pierre, mais je ne vous félicite pas non plus car je vous connais. Tout à l'heure, en rentrant à la maison, sur le pas de la porte, vous réaliserez que vous avez une fois de plus totalement oublié de faire les courses. L'espace d'un instant, vous hésiterez à faire demi-tour pour faire un saut au supermarché. Puis vous y renoncerez, vous attraperez la pasta box Fusilli Carbonara Sodebo, vous la glisserez dans le micro-ondes avec un...
Allez, hop.
Résigné. Et non, je vous l'interdis, car Délice in Extremis, votre recette de secours, arrive juste après Maroon 5, Sugar, sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui frictionne vos neurones, chatouille vos zygomatiques et éveille vos papilles. Grâce à l'intervention décisive chaque jour vers 6h moins le quart de votre sauveur gastronomique, Olivier Pouls, qui a le don de mettre l'eau à la bouche de nos invités comme Pierre Arditi.
Bonjour Pierre Arditi.
Comment ça va?
Ah ben ça
Olivier.
Va bien. J'ai apporté des gratons.
Je n'y toucherai pas. Voilà, tu peux te les...
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Daniel
Pinot. On les a mangés,
pas apporté de gratons.
Sinon je n'y toucherai pas.
Aujourd'hui dans Délices in Extremis, une recette clin d'œil aux origines antillaises de notre invité, le colombo de poulet.
Oui, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, hommage à l'inspecteur éponyme, aurait inventé cette recette lors d'un voyage aux Antilles. Non, pas du tout. Alors, le colombo, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'épices. Alors, il n'y a pas de recette absolue, puisqu'il y a au bas mot une dizaine d'épices c'est qu'on va mélanger. Voilà, c'est assez personnel. Dans chaque famille, on fait son colombo. Alors, je ne sais pas si vous faites le vôtre, qu'est-ce que vous mettez dedans?
Non, surtout pas. Non, je ne fais pas le colombo, non. Bon, j'ai déjà intoxiqué une partie de ma famille, donc j'ai arrêté.
Ah, vous n'avez pas ce don-là,
de la cuisine? Non, certainement pas. Moi, ma mère faisait tout brûler. Tout brûlé. Je vous dis, mais c'est vrai. Et donc j'ai même cru jusqu'à très très tard que c'était un épice qu'elle rajoutait. Le
goût brûlé. Et je ne comprends pas
comment Ducrot n'a pas fait un épice avec goût brûlé. Tout simplement. Donc je lance un appel. Faites goût brûlé.
Bon, ça dit, avec la recette que je vais vous donner, c'est franchement, facile. Vous pouvez pas le rater. Alors le mélange d'épices, on l'achète aujourd'hui dans le commerce. Bien évidemment, on trouve dedans du curcuma, de la coriandre, du paprika, du gingembre, des graines de fenouil, etc. Mais vous l'achetez déjà fait. Alors là, je vais vous faire une version Colombo facile, rapide, parce que
une fois encore, il y a pas le temps plein, quand on rentre,
voilà, exactement. Donc simplement un blanc de poulet, un oignon, un poivron, un mélange d'épices Colombo et on va rajouter un peu de lait de coco. On va tout simplement détailler le poulet en morceaux et on va réutiliser la
détailler
technique.
Détailler le poulet, il faut détailler. Dire, ça veut dire couper. Parce que couper. Pour moi, détailler, ça veut dire regarder le poulet. Oui, si tu regardes le poulet, il ne mérite pas grand-chose.
On le coupe.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il mérite d'être coupé ou pas? Et c'est comme réserver des oignons. Alors, oui, j'aimerais réserver des oignons. C'est Pouls qui m'a dit qu'il fallait réserver des oignons.
Non, mais la cuisine, c'est vrai qu'il y a
un vocabulaire très particulier.
Donc précisez.
Et on va réutiliser la technique du sac en plastique dont je vous avais parlé il y a déjà quelques temps. Exactement, c'est parfait pour enrober des ingrédients. Donc un petit peu de matière grasse, deux belles cuillères de notre mélange d'épices à Colombo. On ferme le sac, évidemment, d'un secoue. De manière à ce que tout soit bien enrobé. On aura détaillé également nos oignons et notre poivron. Et on va faire revenir tout ça ensemble. Poulet, oignons, poivrons, on laisse colorer légèrement. On mouille avec notre lait de coco. Et on laisse cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps que le poulet soit bien cuit à l'intérieur. On peut rajouter un petit peu d'épices si on aime un Colombo un peu plus marqué.
Ah oui,
plus
moi
marqué.
Je pense que je rajouterai. Moi.
Voilà, et puis un petit peu un riz pilaf en accompagnement. Et pour l'ambiance, bah, tout simplement, on monte le chauffage, un disque de Francky Vincent, un petit punch, et ça y est, c'est le voyage, les amis.
Vous parlez un petit punch avant de monter le chauffage.
Oui, mais sinon, il n'y a plus besoin. Comme ça, ça fait des économies de chauffage, on n'a plus besoin de le monter. Avec modération. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est un moment historiquement aussi fort que l'entrée de Dumas au Panthéon, l'élection du chroniqueur européen du jour. Parmi les quatre sujets proposés aujourd'hui, les ventes de disques sur un demi-siècle, l'alcoolisme féminin, le portrait de Keith Jarrett ou les secrets d'Alexandre Dumas, lequel aura vos faveurs et celle de notre invité? Et si, une fois de plus, Ève Roger l'emportait et que ses collègues rentraient chez eux en pleurs avec cette terrible certitude que quoi qu'ils fassent, ils n'y arriveront jamais contre elle?
C'est vrai, c'est vexant, mais c'est très courant.
N'en rajoutez pas, Ève, ne frimez pas. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est une requête de notre invité aujourd'hui, ce cher Daniel Picouli, qui souhaitait entendre une chanson de qualité. C'est vrai que nous avons beaucoup entendu Francky Vincent aujourd'hui. Peut-être beaucoup trop, selon certains. Il était temps d'écouter une autre chanson coquine, d'une autre stature. C'était Colette Renard.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon.
Et va me regarder pas comme ça. L'attention, les amis, est maximale grâce aussi à Colette Renard dans le studio Coluche, puisque l'heure du dénouement a sonné. Qui de nos quatre journalistes en compétition aujourd'hui va sortir de la bataille auréolée du prestigieux titre de chroniqueur du jour? Si la plupart des invités manifestent à ce stade de l'émission une grande bienveillance à l'égard de nos journalistes, estimant qu'ils ont eu affaire à des professionnels passionnants, d'autres, comme Jamy Gourmaud, sont plus critiques.
Des crottes.
Comment Daniel Picouli aura-t-il trouvé nos journalistes? Nous n'allons plus tarder à le savoir et va dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
D'après vous, quand Ève Roger est dans...
Dans la place.
Dans la place, dans le palmarès, eh bien oui, elle arrive première avec les deux points du public.
Et attendez, quand vous dites ça, c'est qu'elle arrive première loin devant.
Loin devant.
Dites-nous le score.
35% pour elle.
35% ouais. Pour la reine Roger, deux points donc du public. Pour ma part, je donne mes points, je l'avais annoncé, je suis un homme de parole, à Fred Goethe qui nous a très très bien parlé de Keith Jarrett. Et parler de Keith Jarrett à cette heure de grande écoute sur Europe 1, ça fait plaisir, en tout cas ça me fait plaisir, j'espère que vous aurez hâte de le découvrir chez vous. Mais attention, ici, vous le savez, c'est l'invité qui décide. Votre voix compte triple, Daniel Picouli. Qui, selon vous, mérite d'être élu aujourd'hui chroniqueur du jour?
Alors, je dois dire que je suis de nature veule et sentimentale. J'ai vu un Roger. mais je suis tombé sur... Et je l'ai entouré sur ma petite feuille. Et je ne sais pas à qui correspond ce Roger. Ève Roger, me dit-on.
Oh,
bon, bah, s'il vous plaît.
Oh, avec un bisou. Les trois points et le bisou. Ève, vous frôlez le grand chelem.
5 points,
points d'un coup. Mais là, vous vous envolez. C'est-à-dire que vous allez faire perdre au championnat européen tous en intérêt, comme la Ligue 1 en foot avec le PSG. Bravo, Ève Roger.
Merci. J'adore tout le monde, vous savez bien. Et on passe un très bon moment ici. Je le conseille à ceux qui voudraient se faire inviter.
On remercie notre invité Daniel Picouli, que vous retrouvez dans Page 19 sur France O le dimanche à 11h45 et sur France 3 dans Le Témoin d'Outre-mer, une chronique chaque lundi à 8h40. Merci d'avoir joué le jeu, Daniel Picouli.
C'est un plaisir.
Merci également à mes journalistes Eva Roque, Ève Roger, Nicolas Carreau, Fred Goethe, Jean-Philippe Ballas. Merci également à mes complices de l'autre côté de la vitre, Philippe Amardeil, Romain Causer, Anne Le Gall, Oriana Lévy, Claire Dutronc et Sébastien Bornenaf, alias Colombo. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.